Paso doble.
Paso doble.
Mardi, expo.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, et pour une fois, je vais commencer ce paso-doble par une citation du grand auteur américain Art Spiegelman, l'auteur de Maus. Et Art Spiegelman a dit ceci: « Une chose me laisse perplexe, tant de personnes par ailleurs cultivées n'ont jamais entendu parler de Winsor McCay. Pourtant, c'est McCay qui a montré à quoi ressemble le paysage intérieur de nos rêves plusieurs décennies avant que les surréalistes n'accrochent une montre molle à un arbre. » Si vous ne connaissez pas Winsor McCay, pas de problème. D'une part parce que je suis à peu près sûr que vous connaissez son œuvre, ou du moins Little Nemo. Et puis ensuite parce qu'il y a une exposition ouverte il y a quelques jours et qui ira jusqu'au 1er octobre à Cherbourg, au musée Thomas Henry. Et je reçois un des deux commissaires, quelqu'un qu'on connaît bien. Bonjour Benoît Peters.
Bonjour Tiofi Kakem.
8e biennale du 9e art et... C'est Winsor McCay qui m'y a l'honneur.
Je crois que c'est un auteur exceptionnel, effectivement, comme le dit Spiegelman, comme le disent beaucoup d'auteurs de bandes dessinées aux États-Unis, en Europe, au Japon même. Il est très aimé aussi. Et puis, il y a des liens entre ce monde nord-américain du début du siècle et Cherbourg, parce qu'au fond, le temps des paquebots, le temps des grands voyages transatlantiques, ça correspond aussi au temps où la presse américaine accorde une très large place à la bande dessinée, la fait exploser en couleurs dans des journaux de très très grands formats, et notamment les journaux du dimanche, les fameuses Sunday Pages. Et c'est à la fois pour raconter quelque chose et pour séduire en un coup d'œil que Winsor McCay a créé Little Nemo in Slumberland, son œuvre la plus célèbre.
Est-ce qu'on peut considérer Winsor McCay comme le père de la bande dessinée américaine? Je sais que lorsqu'on essaye d'écrire l'histoire de la bande dessinée américaine, le premier nom qui vient à l'esprit, c'est bien sûr Rudolph Töpffer. Hein, c'est lui le premier auteur, d'après les historiens, puisque sa première bande dessinée est parue en 1827. Mais la bande dessinée avec les bulles, avec les phylactères, est-ce que c'est vraiment 1905 avec Winsor McCay que ça commence, et donc la forme moderne de la bande dessinée?
Non, non. Le premier personnage très connu dans la bande dessinée américaine, c'est le Yellow Kid. Un enfant, lui aussi, un gamin des rues, des quartiers pauvres de New York, et il est mis en scène par Outco quelques années avant. Et le Yellow Kid rencontre le phylactère, d'abord le son sort d'un phonographe, et ce procédé se répand à toute vitesse, et Winsor McCay est un des premiers. Simplement, Winsor McCay, il va introduire dans la bande dessinée non seulement le fantastique, la magie, l'architecture, mais on pourrait dire la poésie. Il est le premier poète de la bande dessinée, et je ne connais pas un auteur de bande dessinée, quel que soit son pays, quel que soit son style, qui ne reste pas émerveillé devant les planches de McCay. Et puis en plus, c'est un des inventeurs du dessin animé, donc vraiment un homme multimédia, multitalent, qui mériterait d'être plus connu. Mais il faut dire que pendant longtemps, ses créations étaient un peu éphémères. C'était des créations dans la presse, il a fallu longtemps pour qu'il y ait des livres, des expositions, beaucoup d'originaux se sont perdus. Et donc c'est finalement vers la fin du XXe siècle qu'on a commencé à le mettre à sa juste place.
Alors, parlons maintenant du style de Winsor McCay. J'ai cité Art Spiegelman qui parlait des rêves. Est-ce qu'on peut parler de la première bande dessinée complètement influencée par Alice au Pays des Merveilles?
Oui, c'est certain que les voyages de Gulliver et Alice au Pays des Merveilles sont deux sources majeures. On peut noter aussi, pour prolonger Spiegelman, que très peu avant les rêves du petit Nemo, un certain docteur Freud à Vienne avait publié un livre important, L'interprétation des rêves, qui est daté de 1900, alors qu'en fait il est paru fin 1899. Mais Freud avait tellement l'impression que ce livre ouvrait un nouveau panorama, qu'il l'a daté de 1900. Et c'est à peu près le moment où McCay commence à publier dans la presse, même si les pages de Little Nemo arriveront quelques années plus tard. Alors quand on sait, ça serait un sujet d'histoire pour un auteur, quand on sait que Freud, quelques années après, a voyagé aux États-Unis, est allé à New York, est allé à Coney Island, juste à côté de l'endroit où vivait Winsor McCay, on rêve de la conversation qu'ils auraient pu avoir. Le mot rêve est évidemment approprié.
Benoît Peters, qui est Winsor McCay?
Alors, Winsor McCay est un personnage relativement entouré de mystères. On ne sait pas la date exacte de sa naissance, c'est probablement 1869. On ne sait pas si c'est aux États-Unis ou au Canada, c'est vraiment à la frontière. Et il est dans un milieu plutôt modeste. Ses parents le destinent à une école de commerce, mais dès son enfance, il ne fait que dessiner, il n'y a que ça qui l'intéresse. Et donc, quand on le met adolescent dans cette école de commerce, il se sauve, il part dans les parcs d'attractions et il dessine les visiteurs. Donc, il fait du portrait minute, du dessin forain, somme toute. Il en gardera une très, très grande rapidité, une très grande virtuosité. Il va dessiner des enseignes, des choses comme ça. Donc, ce n'est pas du tout quelqu'un qui a une formation beaux-arts. Mais il rencontre, par hasard, un maître, un certain John Goodison, qui veut essayer sur lui et quelques autres jeunes gens une nouvelle méthode pour enseigner la perspective. Alors, je ne connais pas le détail de la méthode de John Goodison, mais quand on regarde les planches de Winsor McCay, on peut penser que c'est un professeur absolument génial, même si l'élève avait son propre génie. Et donc, McCay, recruté par les journaux, fait de l'illustration, puis rencontre la bande dessinée, développe des pages de tout style, parce qu'il y a Little Nemo, mais il y a la fameuse série Les Cauchemars de l'amateur de Fondue au Chester, qui est une série en noir et blanc, plus effrayante. Bon, ben c'est des rêves de mauvaise digestion, mais ce sont des rêves parfois qui mettent en scène la mort, la dégradation du corps, la transformation la plus affolée.
Autant de thèmes qui ne s'adressent pas qu'aux enfants.
Non, il n'est pas uniquement un dessinateur pour enfants. D'ailleurs, cette série, Les Cauchemars de l'amateur de Fondue au Chester, il l'a signée du nom de Silas pour la distinguer de Little Nemo qu'il signe de son nom. Et ce qui est prodigieux, c'est qu'avec un rythme de parution très rapide, très très soutenu, avec des pages totalement éphémères, puisque chaque dimanche il y a une page, et puis on l'oublie, on passe à la suite, etc., qu'il ait réalisé quelque chose d'aussi ambitieux, d'aussi artistique, d'aussi beau, d'aussi drôle souvent, d'aussi féerique. Voilà, c'est vraiment une œuvre qui montre, dès le début du XXe siècle, que la bande dessinée peut être qualifié de 9e art.
Quelle relation il avait, Winsor McCay, avec les éditeurs, avec les journaux qui le publiaient?
Alors, ce qu'il faut bien se dire, il va passer de journal en journal, parce qu'à cette époque, les dessinateurs de bandes dessinées sont vraiment des vedettes. Et il va devenir assez vite une vedette. Les grands journaux, ceux de Joseph Pulitzer, ceux de William Randolph Hearst, ceux de James Gordon Bennett, son premier éditeur, s'arrachent les dessinateurs. Et puis on clone les séries, on essaye de les reprendre. Enfin, c'est vraiment un moment où la bande dessinée est très célèbre. Ce qui est très important aussi, c'est les capacités techniques. C'est-à-dire que McCay lui dessine en noir et blanc et il donne des indications couleurs assez simples. Mais il travaille avec les employés ou les ouvriers de l'imprimerie qui maîtrisent parfaitement les couleurs et qui, à partir de ça, font vivre une véritable féerie de couleurs. Il faut imaginer que les journaux, pendant la semaine, étaient plutôt noir et blanc, que les enfants des années 1900-1910 ne sont pas gorgés d'images comme nous le sommes, et donc il doit y avoir un émerveillement. Ces pages sont de très très grand format, ça c'est très important. Le journal lui-même est très grand format, mais après les originaux de McCay sont encore plus grands, ce sera un des plaisirs de l'exposition qu'on montrera à Cherbourg. Et on a l'impression que Winsor McCay lui-même est un tout petit monsieur, avec une épouse assez plantureuse, beaucoup plus grande que lui, et on a l'impression que c'est sans arrêt ce thème du petit et du grand qui est à l'œuvre. Le petit Nemo, le petit personne, est là dans des pages géantes, l'enfant est lui-même confronté à des pages aussi grandes que lui. Moi je me souviens que quand mes deux fils étaient petits, je leur lisais souvent le soir une page de Little Nemo, et on était vraiment la tête dans le livre, on était enveloppé par le livre, et aujourd'hui encore, ils en ont gardé des souvenirs.
Alors, est-ce que c'est l'univers de Winsor McCay qui est publié dans ces journaux, ou est-ce que c'est suite à des discussions avec les éditeurs, avec les directeurs de journaux, qu'il arrive avec cet univers, avec ses histoires, avec ses bandes dessinées?
Je crois qu'il y a une très grande liberté. Je crois d'abord que c'est un artiste tellement remarquable, tellement virtuose, qu'on a tendance à lui faire confiance. Le public le suit, les plus jeunes comme les plus âgés. C'est vraiment une bande dessinée familiale. Et on a l'impression que personne ne pouvait vraiment avoir d'influence sur McCay. Pourquoi? Parce que ce ne sont pas des scénarios, ce n'est pas une grande histoire qui se prolonge de semaine en semaine. Ce sont des pages qui sont des petits récits, mais en même temps des tableaux. Et on a l'impression que c'est vraiment la plume de McCay impliquée, qui crée l'histoire. Il part d'une forme, il va partir de fruits, par exemple, ou de petits animaux jouets, une petite arche de Noé, et puis ça se met à grandir, et puis ces animaux se mettent à vivre, ou bien les fruits, les framboises, les mûres deviennent gigantesques, s'écrasent, noient les personnages, ou bien le lit de Little Nemo commence à avoir des pieds qui bougent, il franchit la porte de la chambre, il sort dans les rues de New York, le lit s'en mêle dans les gratte-ciels. Tout ça, il ne l'expliquait pas. Je suis persuadé que les responsables des journaux attendaient avec curiosité la nouvelle page qu'il allait proposer. Et pendant des années, il est vraiment d'un niveau extraordinaire. Puis à un moment, peut-être qu'il se lasse un petit peu. Et au moment où il se lasse un peu de la bande dessinée, vers 1911-1912, il entame le dessin animé qu'il va pratiquer en pionnier absolument tout seul. Donc il fait des choses folles. Il parie avec ses collègues dessinateurs qu'il est capable de faire bouger des dessins tout seul, de faire un film. Le premier film, c'est à partir de Little Nemo. Et on le voit, c'est très amusant. Il y a un mélange de films avec comédiens. Il est l'un des comédiens, un peu à la Buster Keaton. Il parie avec ses collègues. Il peut faire. Puis on voit arriver les rames de papier, des pots d'encre gigantesques, etc. Et puis tout d'un coup, les personnages commencent à bouger, à se déformer, se transformer en tous sens, à se pulvériser. Et plus tard, il va créer, pour convaincre vraiment ses contemporains que c'est du dessin animé et pas des films truqués, il va créer Gertie le dinosaure, le premier vrai héros de bande dessinée. On pourrait dire héroïne, parce qu'apparemment Gertie était une dinosaure femelle, qui bouge magnifiquement. Mais c'est un travail de fou, évidemment, parce qu'il continue sa bande dessinée en parallèle. Donc son patron, William Randolph Hearst, lui dit « Non, ça suffit, vous exagérez ». Mackay monte sur les scènes de musicaux, les joue le dompteur sur scène en présentant ses dessins animés. Donc il envoie une pomme en direction de l'écran. Gertie l'avale dans le film, il fait claquer son fouet, Gertie obéit. Enfin, c'est un homme... C'est un artiste multimédia, inventeur de formes, et c'est quelqu'un à qui tout réussit. Son dessin est virtuose. Quand vous voyez, par exemple, ses premiers dessins animés, vous vous dites, mais comme il occupe bien l'écran, comme son dinosaure bouge de manière vivante. Et quand Walt Disney rencontrera le fils de Winsor Mackay, quelques années après la mort de Mackay, il dira en montrant ses studios, tout ce qui est ici aurait dû appartenir à votre père. C'était lui le génie de l'animation naissante. Simplement, Disney sera un industriel entouré d'une équipe, alors que Mackay était un artiste solitaire qui pensait pouvoir faire tout seul ce qui est possible en bande dessinée. Un artiste artisan qui croit que même le dessin animé, une seule personne peut en être l'auteur.
Et l'exposition qui a lieu, je le rappelle, à Cherbourg, au musée Thomas Henry, parle aussi bien de Winsor Mackay, dessinateur, auteur de bande dessinée, que sa dernière partie, c'est-à-dire l'auteur des premiers films animés. Alors, vous avez dit aussi, Benoît Peters, à propos de Mackay nous décourage, qu'il est tant inventé et sitôt qu'il est à ce point compris des possibilités de son médium, donne un terrible coup de vieux à toute la bande dessinée qui le suit.
Oui, c'était peut-être un petit peu moins vrai tout récemment, où on a un Chris Ware, on a des auteurs géniaux, mais c'est vrai que quand on voit ces pages, qu'on se dit, mais attends, quand il a fait ça, 1908, mais c'est inouï. Parce que je prends une série que j'adore, que beaucoup de gens adorent, Philémon de Fred.
Absolument.
Ou la fantaisie de Moebius dans ses récits les plus échevelés. Mais c'est déjà là chez Mackay. Et puis alors ce qu'on découvre, et ce que l'exposition permet de découvrir, c'est la beauté des originaux, parfois recouverte, je dirais, par les livres, parce que dans les livres on reproduit les pages imprimées de journal. Et là, nous avons pu rassembler plus de 60 originaux de Mackay.
Qui appartiennent à qui, ces originaux?
À des collectionneurs privés. Beaucoup ont été détruits. Il y a eu les accidents de l'histoire. Le fils en a découpé pour essayer de refaire des nouvelles pages. Enfin, il y a des choses terribles. Mais grâce au galeriste Bernard Mahé, on en a rassemblé qui viennent d'Italie, d'Espagne, des États-Unis, de France, de Belgique, bien sûr. Et donc, on a le plus grand ensemble d'originaux de Mackay jamais présenté. Nous avons essayé, avec François Skuyten, qui est depuis l'enfance un amoureux de Winsor Mackay, de raconter Mackay aussi. Donc, c'est pas simplement une exposition de dessin et du film. Nous-mêmes, à travers une série d'audiovisuels, nous tentons et de faire partager l'histoire du personnage, notre amour pour lui, mais aussi de pointer ce qui se passe de plus extraordinaire dans telle page ou telle autre, de confronter le dessin au trait et les journaux en couleur, etc. Bref, non pas simplement de montrer du dessin, mais de faire vivre un artiste dans toute sa complexité. Peut-être avez-vous remarqué, je crois que vous avez lu notre BD Revoir Paris, que dans Revoir Paris, qui se passe au 22e siècle, on montre le Centre Pompidou. Et le Centre Pompidou, il faut bien lire, si on regarde, on voit que la rétrospective du Centre Pompidou en 2156, c'est une rétrospective Winsor McCay. C'est vous dire à quel point nous tenons à lui, à quel point nous l'aimons. Alors pour l'instant, ce n'est pas le Centre Pompidou, c'est le musée Thomas-Henri de Cherbourg, mais on espère que ça donnera de bonnes idées à de grands musées, parce que vraiment, je pense que Maquet, tout en étant pleinement un grand auteur de bande dessinée, un grand auteur de dessins animés, c'est un artiste à part entière et c'est un dessinateur prodigieux. Il n'est pas confiné à la sphère des amateurs de BD anciennes.
Et ce qu'on voit bien dans l'exposition, c'est effectivement l'influence qu'a pu avoir Winsor Maquet sur des noms que nous connaissons très bien. Vous avez cité Moebius, vous avez cité Fred. Est-ce que Jean Giraud connaissait affirmait cette influence?
Et vous savez, il y a une édition de Little Nemo qui est parue au début des années 70 chez Pierre Auret. Le lettrage de cette édition, donc le lettrage français, avait été fait par un jeune dessinateur qui s'appelait Philippe Druyet. C'est vous dire que toute la génération métal hurlant a adoré Little Nemo. Aux États-Unis, qui le redécouvre, c'est tout le milieu underground qui en fait commence à s'intéresser dans les années 60 aux origines de la BD, retombe là-dessus et est émerveillé. Et donc il va y avoir une lente émergence, on retrouve des journaux d'abord mal imprimés, puis on trouve de meilleures copies, moins abîmées par la lumière, on s'aperçoit que les originaux n'ont pas tous disparu, on restaure les dessins animés. Aujourd'hui, un bon siècle après le cœur de l'œuvre, on a enfin une vraie perception de l'œuvre de Maquet, on sait enfin qui il est, et je pense que la bande dessinée des années 2010 est par certains côtés extrêmement proche de cette bande dessinée dite primitive aux États-Unis. On a l'impression que le médium bande dessinée, qui à un moment était très cadré, comme ça, l'album, 48 pages cartonnées, couleurs, avec le feuilleton, tome 2, tome 3, tome 4, etc., que ça recouvrait tout le médium. Or, on s'est rendu compte, avec le roman graphique, avec les grandes expositions d'originaux, avec les bandes dessinées expérimentales des uns et des autres, avec un Chris Ware et bien d'autres, on s'est rendu compte que la bande dessinée était large, et aussi large qu'à l'époque de Winsor Maquet. Donc il est pleinement notre contemporain. Il n'est pas une curiosité pour fanatiques.
Et vous allez accompagner cette expo qui s'est ouverte cette semaine et qui ira jusqu'au 1er octobre, je rappelle, à Cherbourg. Et c'est bien sûr au musée Thomas-Henry et c'est à l'occasion de la 8e Biennale du 9e art. Vous êtes avec François Scuten, Benoît Peters, un des deux commissaires de cette expo. Et si on terminait, puisque c'est la fin de la saison, c'est la dernière semaine. Et si on terminait par les autres expositions qui vous ont marqué, vous, personnellement, Benoît Peters?
Alors, je n'ai pas encore vu tout ce que j'aimerais voir. L'offre à Paris est notamment si exceptionnelle. J'ai été très frappé par Walker Evans, le grand photographe américain au Centre Pompidou. Magnifique expo. Il va y avoir Hockney dans quelques jours. Fantastique aussi. Au Musée d'Art Moderne de la ville de Paris, de Rhin, Giacometti Balthus. Des tableaux qu'on ne connaît pas, des affinités qu'on découvre. Alors ça, c'est vraiment très très beau, parce que avoir une exposition avec un regard de commissaire qui nous fait regarder trois œuvres qu'on croit connaître en montrant les fils secrets qui les relient. Puis alors, il y a deux expos Picasso pour l'instant à Paris. Il y en a une troisième à Landerneau en Bretagne par Michel-Édouard Leclerc, qui est aussi un grand amoureux de la BD. Tant de possibilités, il nous faudrait des journées entières pour pouvoir voir toutes ces expositions.
Ou un été pour rattraper,
oui, et puis peut-être pour découvrir aussi des expositions d'artistes moins connus, pour nous aventurer, pour nous lancer.
Merci Benoît Peters, ça a été un plaisir de vous accueillir ce matin, comme chaque fois qu'on vous reçoit, merci.
Merci beaucoup.